La semaine a été marquée par un scandale politique en France, celui déclenché par les aveux de fraude fiscale de l'ancien ministre du Budget, Jérôme Cahuzac. Cette affaire, qui intervient alors que l'ancien président Nicolas Sarkozy est mis en examen pour abus de faiblesse, risque d'effriter encore davantage le capital confiance des Français vis-à-vis de la classe politique. Un phénomène que l'on observe dans plusieurs pays européens alors que l'exigence de vérité, de transparence et de moralité est de plus en plus plébiscitée par les citoyens. Les élus semblent de moins en moins crédibles, la défense de l'intérêt général apparaît parfois secondaire. Bruno Cotres, chercheur et enseignant à Sciences Po Paris, réagissait sur notre antenne.
Je pense qu'il y a un effet de loupe grossissante, évidemment, sur l'affaire Cahuzac. Je ne pense pas qu'on puisse dire que les élus et que la classe politique en général a perdu complètement de vue le sens de son devoir civique et de sa défense de l'intérêt général. L'immense majorité des élus sont des personnes tout à fait dévouées à l'intérêt général. Alors oui, évidemment, tout ça arrive à un moment donné où, dans le contexte de crise économique que nous vivons, sondage après sondage, nous documentons tous une très forte dégradation de la confiance qu'ont les Français dans leur classe politique, dans les hommes politiques et dans la politique dans son ensemble.
Autre polémique dans la bande de Gaza cette fois, le Hamas a promulgué une loi cette semaine. Dès la rentrée prochaine, toutes les écoles devront procéder à une stricte séparation des filles et des garçons de plus de 9 ans. Par ailleurs, aucun homme ne sera plus autorisé à donner des cours à de jeunes filles, ni une femme à des garçons. De fait, la plupart des établissements dans la bande de Gaza sont déjà non mixtes, mais cette nouvelle législation s'appliquera également aux écoles chrétiennes et à celles de l'ONU, où filles et garçons suivent les cours ensemble jusqu'au lycée. Plusieurs militantes féministes ont dénoncé une politique ouvertement ségrégationniste et une islamisation de la société toujours plus évidente. Le Hamas s'en défend, prétendant agir dans ce cas précis selon les valeurs palestiniennes traditionnelles. Le père Faisal Ijazin, responsable des écoles catholiques en Palestine pour le patriarcat latin de Jérusalem, nous confiait son inquiétude.
Pour nous, cette loi ne doit pas exister. Vous savez bien qu'à Gaza, il y a 2000 chrétiens seulement et 1,5 million de musulmans. Et nos écoles, s'y sont ouvertes, les écoles chrétiennes s'y sont ouvertes, ce n'est pas seulement pour nos chrétiens, mais c'est aussi pour, soit pour les musulmans, soit pour les chrétiens. Vivre dans une même école, chrétiens et musulmans, ça aide beaucoup la société à s'ouvrir. Respecter les autres, avoir une ouverture sur l'autre, c'est une importance. Et ce sont nos écoles qui font ça.
Ce jeudi était célébrée la Journée internationale pour la sensibilisation au problème des mines. La Syrie a été le seul pays au monde à utiliser des mines antipersonnelles depuis début 2012. Par ailleurs, les bombardements massifs liés au conflit en cours laissent un cortège d'engins non explosés, dont des sous-munitions, qui font courir un danger grave et durable aux populations civiles. Mais la lutte anti-mines ne consiste pas uniquement à éliminer les mines terrestres sur le terrain. Elle comprend des mesures qui vont de la prévention contre le danger dans un environnement miné à la promotion d'un monde sans mines. Les États membres, la société civile et l'ONU doivent s'employer à créer les conditions législatives, sociales et économiques permettant aux survivants de jouir de leurs droits et de jouer un rôle productif au sein de la société. C'est ce que nous expliquait Mgr Silvano Tomasi, observateur permanent du Saint-Siège auprès des Nations Unies à Genève.
On a fait des progrès réels dans les combats contre les mines antipersonnelles et les bombes à fragmentation. Aujourd'hui, on doit insister, je crois, sur l'attention que la communauté internationale doit donner aux victimes des mines de tout type. Enfin, les ressources que la communauté internationale devrait mettre à disposition pour le déminage d'un coin et de l'autre part pour les victimes de ce type de munitions devrait être plus fort et plus généreux.
Et terminons par une rare bonne nouvelle sur le front économique. Jamais cela n'était arrivé depuis son ouverture en 1949 sur la place boursière japonaise. Pas moins de 6,45 milliards d'actions ont été échangées ce vendredi. L'indice vedette à Tokyo, le Nikkei 225, a grimpé de 1,58% en clôture. Journée faste, puisque là encore, cela faisait plus de 4 ans qu'une telle hausse n'avait pas été constatée. Pourquoi cet enthousiasme sur le marché japonais ? Il est dû à des annonces faites par le tout nouveau gouverneur de la Banque centrale du Japon. Il a promis de doubler le fonds monétaire du pays en 2 ans. Retour sur ce sursaut financier japonais avec Evelyne Douril, docteur en économie et japonologue. Elle est économiste au CEPI.
l'économie japonaise l'an dernier a connu plusieurs trimestres de contraction et puis une très très forte baisse des prix qui dure depuis maintenant une quinzaine d'années. Donc cette déflation, elle ronge peu à peu l'économie. Quand on pense qu'il y a des baisses de prix, ben on attend pour investir, on attend pour consommer. En plus, comme à l'international, ces deux dernières années, il y avait quand même ralentissement du commerce international. Donc il n'y avait plus de moteur pour la croissance économique japonaise. Bon là, on se dit, au niveau déjà interne, on va pouvoir relancer la machine. Et actuellement, on a l'impression qu'il y a un climat des affaires qui est quand même très positif.